Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est un réel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans votre rendez-vous du lundi, votre bistrot vélo avec un invité exceptionnel. Brian Coquart sera avec nous dans quelques secondes. Le temps pour moi de vous le rappeler, vous connaissez le processus, c'est votre émission. Vous n'hésitez pas, vous posez vos questions à notre invité, on en sélectionnera quelques-unes, on refera avec lui le tour de l'actualité. Simon Farvac à la réalisation, on va tout de suite découvrir le menu du jour. Avec la course au bouquet, notre invité est en recherche de victoire. Ça pourrait intervenir assez rapidement. On fera le tour de cette question avec lui. Le Bistro News, on évoquera la Vuelta, bien sûr, le grand feuilleton espagnol qui s'est lancé ce week-end. Et puis le coq, une partie, vous le savez, un peu plus intimiste. On essaiera de savoir qui se cache derrière le coureur une fois qu'il a enlevé le casque, les lunettes. Brian Coquart est notre invité, il est en notre compagnie. Comment ça va, Brian? Merci d'avoir accepté cette invitation.
Salut, c'est avec plaisir.
On est entre deux courses, Brian, c'est bien ça? On vient de terminer une course en Belgique et on est en préparation du Tour du Limousin qui s'élancera demain.
Ouais, ouais, c'est ça. J'étais au Grand Prix Jefferson hier. Du coup, j'ai fait un petit rallye, entre hier soir et aujourd'hui pour arriver à Limoges pour ce départ du Tour du Limousin. Et Limoges, c'est pas plus pratique pour arriver, en tout cas par la route. Et du coup, ouais, ça fait un petit peu de route, mais bon, voilà, je suis arrivé à bon port.
Tu es ici chez toi, Brian, la porte est ouverte, on est là pour faire une émission, pour passer du bon temps, vous êtes déjà très nombreux, bonjour à Laura, bonjour à Simon, bonjour à Nicolas qui nous regarde, on prendra, on vous le disait, quelques questions. On va tout de suite attaquer avec cette première partie, la course au bouquet et surtout ton actualité. Forcément, ça vient de tomber, c'était il y a 48-72 heures, on a appris que l'an prochain tu évoluerais sous les couleurs de la formation Cofidis, Brian.
Oui, oui, tout à fait, j'ai signé... pour 2 ans au sein de l'équipe Cofidis. Donc voilà, je suis très heureux et très content de cette nouvelle signature, même si vous imaginez, ça a été décision pas facile à prendre pour moi. Vous connaissez mon amour et mon attachement à mon équipe actuelle et puis aussi mon amitié avec Jérôme. Donc c'est sûr que ça n'a pas été facile. Et puis il a fallu se poser, bien réfléchir. Et c'est un choix que j'ai fait... voilà, que j'ai mûrement réfléchi et ça c'est vrai que ça a été annoncé ces derniers jours, mais voilà, il me reste aussi une belle fin de saison, en tout cas une grosse partie de fin de saison à faire avec le BNB Hotel, et j'ai envie de, comme on dit, de sortir par la grande porte et apporter bien évidemment le plus de bouquets possible, les bouquets qui me suit un petit peu depuis le début de saison, mais voilà, je suis motivé, concentré sur la prochaine course dès demain, sur le Tour du Limousin, et voilà.
Qu'est-ce qu'il y a, Brian, après 4 années, tu es arrivé en 2018 en provenance du Team Total, qu'est-ce qui a motivé principalement ce choix de rejoindre l'équipe Cofidis? On a vu dans les déclarations, dans les diverses communiqués, un calendrier peut-être un petit peu plus abordable, entre guillemets, une invitation, bien entendu, en évoluant au niveau supérieur. Ça, c'est ça ou il y a d'autres sources de motivation?
Non, c'est clairement ça. J'ai passé 4 superbes années au sein du BNB Hotel. Voilà, j'aime cette équipe. Je pense qu'il y a une grosse partie de moi-même. En tout cas, j'ai fait le maximum pour que cette équipe me ressemble. J'ai donné le max. Ensuite, c'est clair que voilà, à niveau calendrier, on est une équipe continentale pro et c'est sûr qu'on est dépendant des invitations. Et en intégrant une équipe pour le Tour, c'est sûr que c'est un calendrier, on va dire, qu'on peut plus prévoir et sans dépendre des invitations. Donc c'est sûr que ça a été une grande partie de la réflexion et du choix. Et puis voilà, hein, pour rien vous cacher, j'ai 29 ans et on va dire que c'était peut-être le dernier moment où le faire. Donc voilà, il y a... Clairement, j'ai pas de regrets sur mon choix précédent d'avoir rejoint Jérôme dans cette aventure. On partait d'une page blanche. Il faut pas non plus oublier que voilà que l'équipe a que 4 ans de d'existence. Et on a déjà fait 2 Tours de France, mine de rien. Donc ça va vite, ça va très vite. Mais voilà, j'arrive à un âge où c'est sûr que des courses comme Milan-San Remo, retourner à l'Amstel Gold Race et être sûr d'être au départ du Tour de France, c'est des choses qui étaient importantes pour moi et aussi Bah, pour mine de rien garder, je pense qu'évoluer aussi au niveau World Tour tous les week-ends ou toutes les semaines, ça permet aussi d'élever son niveau et de continuer à progresser. Donc voilà, ça a été toutes ces choses-là. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Ça a été clairement ça,
On
comment
sent
dire,
hein, que
la réflexion.
c'est difficile ce choix, on sent que ça te peine. C'est une famille, hein, les Glazes, tu y as passé 4 ans. Alors c'est pas terminé, tu dis, hein, tu veux sortir par la grande porte, Brian. S'il y avait un moment à retenir dans cette aventure avec la bande à Jérôme Pinault, ça serait lequel?
Tout a été génial, tout a été super parce que, comme je le rappelle, on partait de rien. Mais moi, j'ai un super moment en tête. C'était la première course du club, la première course du club parce qu'on s'appelle le club. Je sais pas
Ouais,
si vous êtes.
si, si.
Mais c'est la première course quand on était à Charjas. C'était la première victoire de mon meilleur pote Julien Maurice qui gagnait là-bas. Et voilà, c'était un début en forfait, c'était génial. J'en ai plein des super souvenirs, mais je pense que si on doit en retenir qu'un, certainement celui-là, parce que c'était d'une aventure incroyable qui est pas finie. C'est pas parce que je pars que tout est fini, l'aventure continue. Et je pense que ouais, Jérôme et je me mets un petit peu dedans. Je pense qu'on peut être fier de ce que comment dire. Ce qui a été fait, ce qui a été créé, et voilà,
Tu as aidé
c'est.
à faire grandir cette équipe hein, aux côtés de Jérôme Pinault. C'est ces mots également, vous avez participé un petit peu main dans la main à ce projet. On ne referme pas le livre BNB, pas tout de suite. Hein, il reste, tu le disais, toute cette fin de saison à aller chercher. Cette fameuse victoire qui te fuit cette année.
Ouais, après, j'ai pas envie de faire mon Calimero. C'est sûr que je suis très très régulier. On va dire que même cette saison, je suis super régulier. Après, ouais, c'est sûr que ça me suit. Et j'ai pas plus d'explications. Je pense être un très bon niveau. Je pense par exemple avoir rarement grimpé aussi bien, mais c'est vrai que je tourne autour. Et voilà, c'est le sport. Hein, c'est le sport, mine de rien. Je ne vais pas dire que je vieillis, mais il y a aussi des jeunes qui arrivent, qui sont très talentueux. Et voilà, il y a une grosse adversité. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, je croise les doigts pour que ça arrive rapidement.
On allait faire justement un petit calcul. Depuis ta dernière victoire sur la route d'Occitanie, c'est 22 top 10 et 8 podiums. Tu parlais de régularité. Elle est là, la régularité. 22 top 10 sur les différentes courses. Ça place quand même un coureur, mais il manque ce petit quelque chose pour aller chercher la gagne.
J'ai pas envie de dire de manque de confiance, mais c'est possible, c'est clairement possible, et d'automatisme. Et quand ça fait longtemps que t'as pas gagné, je vais pas dire que tu sais plus comment faire, mais voilà, je vais essayer de débloquer la situation dès demain.
On a une question d'Anthony que l'on salue sur le live Facebook Eurosport qui te demande, Ryan, tu vas retrouver le World Tour. Tu n'as jamais gagné, malgré tes nombreuses victoires, dans cette catégorie World Tour. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou alors tu t'en fiches?
Je m'en fiche, oui et non. Oui et non, parce qu'on me le rappelle souvent. Et du coup, je peux pas l'oublier. Mais non, ouais, c'est quelque chose j'ai beaucoup de deuxième place en World Tour. Alors, je sais pas si vous avez fait cette statistique-là, mais j'en ai
On n'est pas
énormément,
allé, on n'est pas allé jusque-là.
mais j'en ai énormément. Après, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, je vais essayer de débloquer la situation le plus rapidement possible, mais c'est.
Tu parlais de deuxième place, Brian. D'ailleurs, t'es pas très loin. Ici, à l'image, hein, c'est Simon Farvac qui allait nous faire la petite recherche, notre réalisateur. Une certaine étape de Limoges sur le Tour de France en 2016, où tu finis deuxième derrière un certain Marcel Kittel. Et ça se joue à, allez, 3-4 mm. Tu y repenses de temps en temps à cette étape ou alors c'est du passé?
Non, non, j'y repense. 28 mm, très exactement.
Va, voilà, tu as le chiffre 28 mm derrière toi. On a des Peter Sagan, des Dylan Groenewegen et on a revu les images. La photo finish, c'est quasiment impossible de vous départager.
Eh non, c'est ça. Bien évidemment que j'y repense parce qu'on est passé en revenant de l'entraînement tout à l'heure. On est comment dire, on est passé par l'avenue, par
Ouais.
la fameuse avenue. Et du coup, on en a rediscuté avec les gars. Mais ouais, non, c'est sûr que pour l'instant, c'est ça, c'est ça. cette deuxième place, ça illustre clairement mes deuxième places en World Tour. Il y a aussi, je crois, c'est la même année en 2016, à travers les Flandres, où je lève les mains avant la ligne. Et c'est Jens de Bucher qui est mon poisson pilote maintenant actuellement, qui avait gagné, qui m'avait sauté sur la ligne. Donc,
tu nous as fait ce qu'on appelle désormais une Julien Alaphilippe, en fait.
Clairement, voilà. Mais j'ai fait avant lui.
On a beaucoup de questions, vous êtes très nombreux, on va en choisir quelques-unes. Il y a Ben qui te demande, est-ce que en signant au sein du team Cofidis, tu as peut-être déjà discuté avec Cédric Vasseur, est-ce que tu as déjà un calendrier en tête de course pour la saison prochaine, ou alors tu verras ça cet hiver?
On en a discuté un petit peu. Comme je vous évoquais tout à l'heure, mon souhait c'est de retrouver, même si j'ai fait qu'une fois Milan-San Remo dans ma carrière, mais de participer à Milan, de retrouver l'Amstel, où j'ai fait quatrième en 2016. Donc voilà, c'est une course qui m'affectionne. Et puis bien évidemment, le Tour de France aussi au mois de juillet. Donc je pense que ça sera quelque chose comme ça, les grandes lignes de ma saison.
Tu commences à être un coureur expérimenté, Brian, on ne dira pas vieux, attention, hein, 9 ans déjà de professionnalisme. Comment tu analyses, toi, l'évolution du monde cycliste? On le sait aujourd'hui, on parle beaucoup de jeunesse, de sport à maturité précoce, avec ces jeunes loups qui arrivent et qui gagnent des grands tours, qui gagnent des grandes classiques. Comment tu juges, toi, depuis tes premiers pas chez les professionnels à aujourd'hui, l'évolution de ton sport?
C'est sûr que c'est de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus précoces, parce qu'en sortant de junior, je me rappelle ma première année au Vendée-U, en Coupe de France DM1, je marchais bien, mais j'écrasais pas tout le monde. Et loin de là, loin d'être au niveau professionnel. Et eux, ils arrivent, ils sont déjà super opérationnels dès leur première année espoir. Et du coup, c'est incroyable. J'ai pas d'explication à ça, mais ouais, c'est sûr qu'on voit des jeunes arriver de plus en plus tôt au devant de la scène et au plus haut niveau mondial.
Ouais, on voit à l'image, hein, Remco Evenepoel qui était sur nos antennes cette semaine sur le Tour du Danemark, vainqueur du classement général de ce Tour du Danemark avec deux étapes. De voir des garçons passer de la catégorie junior sans passer par cette catégorie espoir et signer directement en professionnel, ça t'inspire quoi?
Bah, ça m'inspire clairement, à mon époque, ou pour moi, personnellement, j'aurais été incapable de faire ça. Ça aurait été une très mauvaise idée parce que mes deux premières années au Vendée-U ont été super constructives et nécessaires pour arriver, mine de rien, en passant à 20 ans chez les pros, c'était déjà jeune. Mais au moins, quand je suis arrivé, j'étais déjà prêt pour le peloton professionnel. Après maintenant les jeunes ils arrivent à 18 ans, ils sont tout aussi prêts que moi à l'âge de 20 ans, même plus prêts, même plus forts, et du coup ouais, c'est le cyclisme,
ça change,
c'est le cyclisme actuel, c'est sûr, ça change, certainement qu'il doit, je sais pas vraiment, mais je pense qu'ils doivent plus s'entraîner que nous à l'époque dans les catégories juniors, mais c'est aussi, voilà, c'est l'évolution de notre sport et c'est comme ça.
Allez, on va passer à la deuxième partie, le Bistro News. On a vu tout à l'heure les images de la victoire de Remco Evenepoel au classement général du Tour du Danemark. Il y a bien sûr le feuilleton de la Vuelta. Ça s'est terminé il y a quelques instants. Première arrivée au sommet avec le Picon Blanco. Et la victoire de Rein Taramäe, l'Estonien de la formation Intermarché ou Antigobert Materio. Deuxième victoire en World Tour cette saison pour cette équipe belge. Tu suis un petit peu ce Tour d'Espagne, on le rappelle, hein, ta formation n'est pas présente sur place, mais j'imagine que tu regardes ça quand même de près.
Oui, j'ai regardé ça pendant le massage et puis je me suis dit que si on me posait des questions dessus, j'avais intérêt à avoir les bonnes réponses, à être incollable sur le sujet. Non, mais non, ça, blague à part, comme M. Vauclair le dit très souvent. Non, je l'ai regardé pendant le massage, ça nous arrive souvent de mettre du sport, et voilà, avec la Vuelta en ce moment, c'est sûr que ça tombe, voilà, l'arrivée est souvent à l'heure des premiers massages, donc on regarde ça.
Et hier, ça devait te concerner un petit peu plus, puisque c'était une arrivée au sprint, victoire de Jasper Philipsen, t'as pu le regarder ce sprint, et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, j'ai regardé, j'étais déjà, je pense, dans le train pour... Notre course a terminé de bonne heure hier, donc j'étais déjà dans le train direction la maison. Et ouais, ça a été un sprint très rapide, très houleux. On a vu Arnaud qui s'est fait qui s'est fait un peu chahuter et du coup n'a pas pu sprinter. Mais non, c'est sûr que ça a été. Ça me fait mine de rien, même si c'est un adversaire, ça me fait quand même plaisir pour lui parce qu'il est passé, très près sur le tour à nombreuses reprises. Donc voilà, c'est très bien et c'est un super début pour lui et pour son équipe. Il y a aussi Jakobsen qui revient au plus haut niveau. Donc voilà, je pense que ça promet aussi de très beaux sprints,
dans le
très beaux
futur.
Sprints dans le futur de la Vuelta parce que mine de rien, voilà, il n'y en a pas un ou deux qui dominent. Je pense qu'ils sont 5-6 à pouvoir s'imposer. Donc je pense qu'on va assister à des beaux sprints et des belles guerres de train.
Ouais, effectivement, tu parlais du Tour de France de Jakobsen, ça me permet de rebondir. Question de
Philippe.
Chris, tu l'as vécu comment ce Tour de France? Ça a été compliqué, on le rappelle, hein, Brest-Landerneau, grosse chute, tu pars au sol et puis derrière sur la fameuse étape de Tim, tu peux pas aller au bout. Ça a été une frustration ce Tour de France?
Ça a été super frustrant et je vais dire même démoralisant
Ouais.
sur le coup parce que voilà, c'est sûr que j'avais mal, j'avais beaucoup de douleurs mais finalement voilà, on n'avait pas trop de verdict. Le tour continuait et du coup il fallait remonter sur le vélo tous les jours et ça a été une grosse désillusion sur le coup, un gros coup sur la tête. Et puis ensuite ensuite après avoir passé des examens plus approfondis dès le mardi, voilà, on s'est aperçu que bon, les côtes, on le savait, que j'avais deux côtes cassées, mais aussi j'avais un pincement de vertèbre avec une fissure. Et du coup, la pilule est passée quand même bien plus facilement parce que c'était clairement impossible de terminer comme ça. Ou j'aurais, même si par chance j'arrivais dans les délais, j'aurais galéré toute la fin du tour. Et du coup, mine de rien, avec le recul, je me dis que c'était un mal pour un bien de comment dire, de rentrer à la maison, de me soigner, de me reposer et de me remettre à l'entraînement pour faire une belle fin de saison, pour ma dernière fin de saison avec l'équipe. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis tout de suite, je me suis reposé et ensuite je me suis remis au boulot avec l'envie de bien de faire sur cette fin de saison. Mais c'est sûr quoi, ça a pas... sur le coup, ça a été super compliqué, super dur
Bien sûr.
À digérer, mais ça a été très vite parce que voilà, dès le mardi, j'avais le résultat des diagnostics et on était fixé. Et voilà, c'était bien plus grave que ce qu'on pensait. Et donc, c'était clairement impossible de faire du vélo comme ça. Et c'était aussi, j'ai voulu continuer à rouler très, très rapidement. Et j'avais du mal à faire 1h30 de vélo. Donc,
Ouais.
Donc voilà,
la
j'étais mieux.
douleur était présente. On te catégorise souvent dans cette race des sprinteurs, Brian, même si tu es également très bon puncher, tu le disais, hein, des courses comme Milan-San Remo, l'Amstel Gold Race te conviennent très bien. Justement, parmi les sprinteurs actuels, tu arrives à déterminer une hiérarchie. On le voit depuis 1 an, 2 ans, ça devient un peu plus compliqué. Ça s'est vraiment resserré l'écart entre les meilleurs sprinteurs de la planète. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense, après aussi, je pense qu'il y a aussi le fait que toutes les équipes se sont vraiment organisées autour de sprinters. Et donc, quand j'ai fait mes premiers tours, il y avait clairement un train qui se démarquait et à chaque fois, c'est ce train-là qui arrivait à prendre la tête et à emmener le sprint. Maintenant, toutes les équipes sont super armées.
Oui.
Pour le sprint, sont super bien organisés et du coup ça fait que ça fait une émulation vers le haut et il y a beaucoup de sprinteurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais clairement je pense qu'intrinsèquement, en tout cas c'est mon avis et c'est mon opinion, je pense que Caleb Ewan est quand même le plus rapide.
C'est le nom que tu ressortirais, toi, Caleb Ewan?
Je pense que oui, c'est clairement lui le plus rapide actuellement, même si on a vu que Marc Cavendish était super, super rapide sur le Tour de France, mais je pense que ouais, Caleb Ewan actuellement en tout cas est le plus rapide.
Et justement, tu parlais de Marc Cavendish, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, toi qui matchais avec lui il y a quelques années sur le Tour de France, quand il était à sa pleine époque, après sa traversée du désert. Est-ce que ça t'a surpris, toi, de revoir le cave comme ça au top niveau, le meilleur sprinter du dernier Tour de France, tout simplement, le maillot vert?
Ça m'a surpris Après, oui et non, parce que mine de rien, je pense qu'en interne, on l'a vu arriver. Il a commencé à gagner en Turquie, ensuite
T'étais avec lui sur le
il a
Tour de
gagné
Belgique juste avant, ouais.
la dernière étape du Tour de Belgique, devant notamment Caleb Ewan, et il y avait un gros plateau de sprinters sur le Tour de Belgique. Donc voilà, à ce moment-là, je me suis dit oui, il est de retour et il fait partie à nouveau des meilleurs. Mais c'est sûr que ouais, ça a été compliqué pour lui. Il est passé par des moments difficiles et il a réussi à renverser la tendance et c'est très bien pour lui.
Ça doit forcer le respect, hein, de voir un coureur capable à cet âge-là, pour un sprinteur, d'être au top niveau. Ça peut laisser entrevoir de belles choses. Il te reste encore de très nombreuses années.
Oui, c'est sûr, si on le voit comme ça, mais non, oui, c'est sûr. De toute façon, Marc Cavendish, je force le respect parce que quand je suis passé pro, même avant de passer pro, je bouge la tête parce qu'il y a une mouche qui m'embête en fait. J'ai pas d'éthique. Mais ouais, non, quand je suis passé pro, même avant, hein, avant de passer pro dans mes jeunes années, Marc Cavendish, bah voilà, il gagnait toutes les étapes sur le Tour de France. C'était déjà le meilleur sprinteur du monde. Donc, voilà, une longévité comme ça, c'est incroyable.
Et vous partagez une approche du cyclisme similaire, puisque lui aussi, comme toi, c'est un pistard. Ça va me permettre de faire la transition. Il y a eu des Jeux Olympiques, ça t'aura pas échappé, Brian, avec la piste. Toi qui as été champion d'Europe de la course au point, champion du monde de l'américaine, champion d'Europe de l'élimination également, j'imagine que tu es allé suivre les copains. On le connaît très bien, Benjamin Tova et Donavan Grandin, qui ont pris la médaille de bronze sur la course à l'américaine. Qu'est-ce que ça t'a fait de les voir comme ça?
J'étais leur premier supporter, bien évidemment. Après, ça va, c'était pas trop de bonheur leur course. Donc, bien évidemment, j'ai suivi la course. Et ouais, non, voilà, ils le méritent. C'est une belle médaille de bronze, même s'ils sont passés pas loin clairement, hein, je pense qu'ils sont passés pas loin d'être champions olympiques. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ils ont failli faire le break en prenant à Tours. Je pense que. Clairement, s'ils arrivent à prendre ce tour-là, ils sont difficilement déboulonnables et champions olympiques. Et après, peut-être qu'ils l'ont un petit peu payé sur le final, mais ils ont joué leur va-tout et bah, il n'y a pas eu beaucoup d'équipes. C'était quand même les Jeux et il n'y a pas eu d'équipes qui ont survolé la course. Et je pense que voilà, ils étaient au niveau, ils étaient au rendez-vous et ça a été une belle bagarre avec les Danois favoris qui ont gagné. Ils ont survolé les 2 ou 3 dernières années. Mais voilà, non, c'était une super belle américaine, un beau spectacle et un suspense jusqu'au bout. Donc, ouais, c'était top.
Et justement, Brian, à quand un retour sur la piste? Je vois beaucoup de questions et on en a parlé un petit peu en préparant l'émission. Tout le monde dans mon entourage dit Brian Cocard, quand il est le meilleur sur route, c'est quand il fait de la piste à côté. Est-ce que tu as parlé déjà peut-être du côté de la Cofidis? Est-ce qu'on va te revoir sur les vélodromes dans les compétitions nationales et internationales dans les années à venir?
Rien n'est acté. Oui, bien évidemment, on en a discuté parce que c'est sûr que la piste, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon bien-être. Il n'y a rien vraiment d'acté ni de prévu. Je pense que le championnat du monde cet hiver, ça sera trop tôt.
C'est à Roubaix, on le rappelle, hein, ça a
C'est
été
à Roubaix, c'est
officialisé
pour
par
ça.
l'UCI, oui.
C'est ça. Et c'est pour ça que j'y pense directement. Je pense que ça sera trop tôt, surtout avec une grosse fin de saison qui m'attend et beaucoup de courses. Je pense que je serai émoussé pour repartir sur la piste. Mais pourquoi pas Paris 2022, le championnat du monde sera de nouveau en France.
Et Paris
Donc voilà.
2024?
Et Paris 2024, pourquoi pas non plus? Pourquoi pas non plus
Et quand on regarde Mikael Morcoff sur l'américaine champion olympique, Mikael Morcoff, quand tu arriveras à Paris 2024, tu n'auras pas encore son âge, hein.
Non, non, c'est sûr. Mais non, non, c'est des choses qui me trottent dans la tête. Après, il faut bien poser les choses et bien préparer tout ça parce qu'en fait, la complexité, on va dire quoi, il y a deux complexités. J'adore, hein, si je pourrais tous les hivers sur les Coupes du Monde ou sur les vélodromes, je le ferais. Le souci est qu'on a des saisons qui sont de plus en plus
Bien
longues, ou
sûr,
en tout cas
oui.
qui sont très chargées. Et en fait, la piste se pratique l'hiver. Et donc, c'est-à-dire que le moment où normalement je suis censé prendre des vacances, on va dire fin octobre, bah, il faut continuer à s'entraîner sur la piste, partir faire des Coupes du Monde Et au-delà du côté physique et mental, c'est aussi le côté, on va dire, le côté familial qui est très important dans mon équilibre. Et quand tu es déjà parti 200 jours dans l'année et qu'il faut repartir encore tous les hivers sur la piste, ça fait plus beaucoup de temps à la maison. Et j'ai besoin de ça, de me ressourcer et de prendre du temps avec les miens. Donc voilà, il faut bien réfléchir, faire les sacrifices quand il le faut et quand c'est bon. Mais pourquoi pas imaginer un retour pour les Mondiaux 2022 à Saint-Quentin, et puis ensuite commencer la qualification olympique pour aller jusqu'à Paris 2024. C'est des choses qui me trottent dans la tête, et il faudra poser bien ça, même si je suis le premier. Je suis le premier à en avoir envie, mais dans tout ça, ça c'est la première complexité. Il y a la deuxième aussi, où le fait que là c'est un petit appel pour la région Pays de la Loire et peut-être même Bretagne. On n'a pas de vélodrome couvert dans le coin, et du coup ça me fait encore partir plus pour aller. L'hiver je peux pas faire du vélodrome, pas dans le coin, pas sur des pistes non couvertes, et du coup. Ça rajoute des semaines de stage encore à Saint-Quentin-en-Yvelines ou à Bourges. Et du coup, voilà, ça fait beaucoup. Donc, il faut faire des petites pauses. C'est pour ça que voilà, ça m'arrive de revenir, de faire des petites pauses et pour me régénérer un petit peu. Mais c'est sûr que si j'avais un vélodrome couvert près de la maison, je serais presque toutes les semaines sur la piste, et ça serait beaucoup plus facile et plus rapide de retrouver le niveau et le coup de pédale et d'être opérationnel sur les Coupes du Monde.
Et en tout cas, tu as beaucoup de supporters. Hein. Sur le live Facebook Eurosport, c'est un plébiscite. On veut Brian Coquart aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On dit ça, on dit rien. Tu parlais du comité de Bretagne et Pays de la Loire. Ça ne les a pas empêchés de performer sur les derniers championnats de France sur piste qui se tenaient à Bourges. Ça s'est terminé hier. Allez, on va passer à la troisième partie qu'on a nommée le coq. Alors le coq, on ne va pas le cacher, tout le monde est au courant, c'est un petit peu ton surnom dans le peloton, un petit peu ton surnom, j'imagine, auprès des copains du vélo.
Bien sûr, c'est mon surnom depuis toujours.
Depuis toujours, effectivement. On va essayer de savoir un petit peu plus qui est Brian Coquart. C'est vrai que nous, on te voit toute l'année, les suiveurs, les téléspectateurs, on te voit à la télévision, on te voit avec le casque, avec les lunettes, mais on ne sait pas qui est l'homme Brian Coquart. Alors, on sait que c'est un sprinteur sur le vélo, mais qu'est-ce que tu fais? Que fait Brian Coquart quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit en compétition ou à l'entraînement?
Du coup, mine de rien, ça a un petit peu changé aussi, parce que je suis papa depuis 17 mois maintenant.
Félicitations.
Merci. Donc, c'est sûr qu'on va dire que mes activités n'ont pas changé totalement, mais c'est sûr que ça
s'est restreint.
Ça me restreint un petit peu, mais non, c'est un grand plaisir, bien évidemment, de passer du temps avec ma femme et ma fille, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, on est beaucoup partis de la maison, même si je pense que je suis l'un des seuls cyclistes professionnels à avoir eu entre guillemets droit à un congé parental, parce que ma petite est née en fait la veille du premier confinement, donc je suis resté à la maison avec elle pour l'avoir grandir, en tout cas pour les tout débuts. Mais non, après, je suis quelqu'un qui aime partager du temps avec mes amis. Je joue aussi un petit peu à la pétanque, même si je suis en train de... Je m'entraîne pour progresser, mais non, voilà, je suis quelqu'un de très jovial, qui aime passer du temps vraiment avec sa famille et ses amis. Il n'y a rien vraiment d'extraordinaire.
C'est vrai que...
Je suis quelqu'un de très simple et mon quotidien aussi.
Quelqu'un de très simple, et on le sait là aussi, quelqu'un d'attaché à ses racines, l'US Pontchâteau, l'enfant du Pays de la Loire. Tu es resté dans cette région, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur.
Oui, bien sûr. En fait, pour évoquer mon cursus, en gros, je suis parti à l'âge de 14 ans de Savenay, ma ville natale, pour entrer au Pôle France en fait, à Talence. Pour la piste, et puis donc j'ai vécu, on va dire, je raconte des bêtises, ça devait être 16 ans. En tout cas, j'ai vécu 4 ans à Bordeaux pour au départ pour entrer dans le Pôle France, ensuite pour préparer les Jeux. C'était 2012, ça date. Mais voilà, j'ai continué à vivre là-bas. Et puis voilà, dès mon premier contrat professionnel et les jeux terminés, j'ai décidé de rentrer près des miens, près de mon cocon familial pour rendre, même si je passais du bon temps et c'était cool, la coloc à Bordeaux. D'ailleurs, j'étais avec Julien Maurice et Jérôme Cousin, on était tous les trois en coloc.
Ça devait bien rigoler là-bas.
Ouais, on a bien rigolé. Ouais. Mais du coup, ouais, j'ai décidé de rentrer après mon premier contrat professionnel et de m'installer ensuite près de ma famille, près de ma terre natale.
Question de Mickaël Godin. Ton meilleur et ton pire souvenir sur le vélo? Pas évident, hein?
C'est pas évident. Je pense que mon meilleur souvenir sur le vélo, ça reste encore les Jeux, parce qu'on parlait de la piste, les Jeux à Londres.
La
En
médaille d'argent
2012.
À Londres?
Ouais, bien sûr, parce que je pense qu'une victoire sur le Tour prendrait le dessus, mais c'est encore à l'heure actuelle mon meilleur souvenir. En plus, j'avais 20 ans, je ne vais pas dire que j'arrivais de nulle part, mais c'était incroyable, incroyable cette médaille. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien d'équivalent. Et mon pire souvenir, je pense clairement que mon pire souvenir, c'est l'étape des Tilleuls cette année où je suis arrivé hors délai, où j'ai galéré. J'avais du mal à pédaler, il faisait froid, il pleuvait. Et
Dantesque.
en plus, dantesque. L'arrivée hors délai, je pense que c'était ma pire journée, en tout cas mon pire souvenir et ma pire journée sur un vélo, c'est Clermontine cette année où ça a été horrible.
Bon, à ta décharge, on va essayer de nuancer un petit peu cette déception. Tu n'étais pas le seul hors délai. Il y avait des copains à toi qui étaient également dans la même situation. Si tu n'avais pas été coureur cycliste, tu aurais aimé faire quoi, Brian, dans la vie de tous les jours, dans ta vie d'homme?
Je sais pas trop parce que j'ai toujours rêvé de faire du vélo, de faire de ma passion mon métier. C'était clairement un objectif. Et puis ensuite, tout est arrivé en fait super vite. Et je ne vais pas dire que j'ai pas eu le temps d'y penser, mais ce que je vais dire, c'est pas bien pour les jeunes qui écoutent. Mais je suis rentrer au Pôle France en sport et études, on va dire que je pensais plus au sport qu'aux études, même si j'ai bien travaillé, j'ai eu mon bac. Et une fois mon bac arrivé, c'était 2 années avant les Jeux, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Quelque chose qui ne me prend pas trop de temps. Et du coup, j'ai fait STAPS, mais ma première année en 2 ans, donc les 2 années avant les Jeux. Ma première année que j'ai validée, bien évidemment. Et ensuite, je suis passé professionnel. Donc, en fait, dans tout ce déroulé, c'est venu à moi comme ça. Et je ne regrette pas. Après, je ne suis pas encore assez vieux pour penser à ce que je vais faire après, mais c'est une question qu'il va pas falloir tarder à se poser.
Il faudra cogiter tout ça. Vous êtes vache quand même sur le live Facebook. Il y a une question d'Estelle qui nous demande, Brian, si tu avais le choix entre une médaille d'or olympique sur piste du côté de Paris 2024 et une victoire d'étape sur les Champs-Élysées sur le Tour de France. C'est dur!
C'est super dur, c'est super dur. Je veux dire que les deux ne sont pas incompatibles. Je pense que c'est jouable, mais non, je vais essayer de commencer par la victoire sur les champs et d'enchaîner avec la médaille d'or à Paris 2024.
Voilà, ça c'est un bon programme. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur sportif professionnel, de coureur cycliste professionnel, et ce que tu aimes le moins?
Voilà, je vais faire une réponse bateau, mais ce que j'aime le plus, c'est les courses. Parce que je suis un compétiteur. J'aime ça, j'aime. Ouais, je prends vraiment énormément de plaisir sur les courses et à faire. Voilà, à essayer de gagner et gagner, même si on perd plus souvent qu'on gagne dans le vélo. Et ce que je déteste le plus dans le vélo, c'est difficile parce qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, mais je vais dire la défaite. La défaite, c'est ce que j'aime le moins.
Généralement, les copains qui sont à ta place, c'est plutôt, ça parle bouffe, hein, c'est plutôt la nourriture, le truc qu'ils aiment le moins, la diététique notamment.
C'est sûr que c'est chiant, c'est quand même difficile au quotidien, mais c'est des efforts qui font qu'ensuite tu peux réussir à être performant. Mais ouais, c'est sûr que l'hygiène de vie, c'est un des gros désavantages de notre métier. Il y a aussi les déplacements et la vie dans une valise. C'est pas le plus sympa.
Allez, on prend une dernière question. Guillaume qui te demande, Brian. Alors, qu'est-ce que je vais la retrouver? Brian, il est là. Ben non, je l'ai perdu. Bon, on l'a perdu, c'est pas grave, on l'a perdu. On va terminer sur une autre question. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Si tu avais un vœu à exaucer, là, maintenant, tu trouves une lampe, la lampe magique, tu frottes, il y a un génie qui sort. Qu'est-ce que tu souhaiterais? C'est dur, hein?
Ouais, c'est dur. On parle de ouais. Ce que je souhaite le plus, c'est bien évidemment de lever les bras sur le toit. Si vous pouvez me souhaiter ça, c'est l'idéal.
En tout cas, nous, on te le souhaite. Bah, ça sera le mot de la fin. Brian, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette émission de Bistro Vélo. Puis on va suivre attentivement cette fin de saison avec les Glazes, notamment le Tour du Limousin qui débute demain. Et puis, on se retrouvera l'année prochaine sous des autres couleurs, sous les couleurs de l'équipe Cofidis. Merci à toi.
Merci à vous.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bistro Vélo avec un autre invité, Alexis Guérin, qui sera avec nous pour le team Vorarlberg. Prenez soin de vous. Bye bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.